Faire rire de la mort en pleine pandémie de Covid, il fallait oser. L'humoriste belge préféré des Français relève le défi avec brio. Et si tourner la mort en dérision était le meilleur moyen d'exorciser ses angoisses.
Vive voix. Chantal Leroux.
Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Chantal.
On est ravis de vous recevoir pour parler de votre nouveau seul en scène, Ad Vitam, que vous jouez du mercredi au samedi au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Alors pour votre premier spectacle, Alex Vizorek est une œuvre d'art, vous aviez choisi un thème un peu austère, l'art.
C'est vous qui le dites.
Que vous aviez transformé en exercice d'humour de haute volée. Alors cette fois, vous vous êtes lancé un défi encore plus grand, réussir à faire rire d'un sujet funeste, triste, douloureux, quand il n'est pas tabou, la mort. Comment vous êtes venu cette étrange idée?
Mais j'aime bien le défi dans l'écriture et j'aime bien avoir une ligne conductrice, c'est-à-dire que écrire sur une feuille blanche et ne pas avoir de contraintes ne m'aide pas. Et donc j'aime bien l'idée qu'il y ait une thématique à un spectacle. Et donc j'ai mis longtemps. Et puis je me suis dit, mais en fait, est-ce que l'Everest du spectacle comique, c'est pas d'écrire un spectacle sur la mort qui ne fait rire personne et pour cause, mais comme c'est relativement universel.
Voilà, c'est ce que vous soulignez.
Sans vouloir vous déflorer la suite de nos existences communes, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en rire? De toute façon, elle va tomber. Donc je suis arrivé, j'espère, enfin vous l'avez vu, donc vous pouvez juger, mais à justement ne jamais trop la traiter de face, de la traiter par des angles d'attaque très différents.
Alors ce thème, est-ce que c'était aussi une façon de vous distinguer de vos petits camarades humoristes qui souvent... ont une tendance un peu, comment on va dire, nombriliste, hein.
Oui, mais ils le font très bien, parce que je crois que la force d'un bon nombriliste, c'est d'être universel. C'est-à-dire, si vous parlez de vos problèmes, de vos angoisses, et que derrière, en fait, elles résonnent chez tout le monde, bah, c'est intéressant. Là où, chez moi, ici, je savais qu'en parlant de la mort, ça résonnerait... Personne ne peut dire, je m'en fiche, ça m'est égal, ça ne m'intéresse pas, le sujet de la mort. Et même dire ça, c'est déjà une prise de position vis-à-vis de la mort. Donc je savais qu'intrinsèquement, ça intéresserait, ça intriguerait en tout cas, ça intriguerait aussi les journalistes, parce que c'est pas très compliqué d'expliquer la thématique. Donc je me suis dit, parce que sur l'art, c'était un peu plus vaste. Et donc je me suis lancé là-dedans, un peu sans savoir si ça me mènerait quelque part. Mais oui, me différencier des autres, c'est sûr. Mais parce que je les trouve très créatifs et plus on est, parce qu'on est vraiment une génération, il y a beaucoup d'humoristes. Quand je me remets, moi, quand j'étais gamin, j'étais à Bruxelles et il y avait chaque année 5-6 humoristes qui venaient, qui étaient la génération Palmade, Bigard, Danny Boone qui commençait, Eli Kaku, que j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, on est très, très, très nombreux, de partout d'ailleurs. Il y en a qui sont à Bruxelles, qui sont nés à Bruxelles et qui... Paris n'est plus le passage obligatoire, si vous voulez. Et donc, comme ils ont beaucoup de talent, ils tirent la discipline vers le haut, je crois.
Et dans les anciens, quels sont vos maîtres en matière d'humour?
Dès qu'on écrit deux lignes, en ayant réfléchi chaque mot, on est comparé à des proches. Donc, évidemment, moi, j'aime bien dire Lucchini, parce que quand j'ai vu...
Oui, j'étais étonnée, vous avez dit c'est le plus grand humoriste.
C'est-à-dire que quand je l'ai vu parler de littérature avec... cette intelligence et cette drôlerie sur un spectacle que j'ai vu il y a une vingtaine d'années, tout sur Robert, parce qu'il parlait de lui et de ses passions, donc il parlait de Paul Valéry, de Jean de La Fontaine, de Chrétien de Troyes, que je connaissais évidemment assez mal. Et ça m'a donné envie d'acheter Barthes et Valéry, et ça m'a donné envie de faire rire avec des sujets intéressants. Donc je lui dois un peu ça. Et puis autre personnalité que j'adore, c'est Philippe Cobert, qui joue avant moi au Théâtre de l'Œuvre en ce moment, et que j'ai vu jouer des spectacles fantastiques, mais à part être admiratif de cet homme et de sa façon de gérer le seul en scène, il fait ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire qu'il fait des personnages, il vous raconte une histoire, vous avez l'impression qu'il y a un monde.
Et là, il reprend les lettres de Mon Moulin.
Exactement, là, il fait Daudet, les lettres de Mon Moulin, mais moi, je l'ai vu parler beaucoup de sa vie, de parler de Mouchkine, de quand il a joué Molière au cinéma, quand il a fait les festivals d'Avignon, et il rend ça hyper intéressant. Moi, j'ai souvenir qu'il jouait au Rond-Point 6 spectacles en même temps, et il y avait moyen de voir les 6. Et je me suis dit, mais comment il fait? Alors, il y a une souffleuse qui est là devant, mais moi, je l'ai vu intervenir trois fois sur 12 heures de spectacle.
Donc et dans un même spectacle, il peut incarner une quinzaine de personnages.
Ah mais c'est fantastique. Mais
donc, et voilà, on les reconnaît immédiatement.
Ces gens-là qui parviennent à vous créer un monde sur une scène où on est tout seul, je suis admiratif. Et tous, quelque part, j'ai pris un ingrédient pour mettre dans ma soupe à moi et faire ma spécificité.
Alors, ce spectacle, Ad Vitam, devait démarrer en avril 2020.
Tout
à
fait.
Et le Covid est passé par là.
Alors, de là à dire que je suis devin, que le sujet de la mort allait devenir central, j'aimerais dire que non. Et je n'y suis pour rien non plus. Ne me tombez pas dessus à bras raccourcis, je ne suis pas le père du pangolin. Mais c'était assez fou, évidemment, de se rendre compte de ça, que ce spectacle qui existait avant, cette thématique qui existait bien avant, parce que souvent les gens me disent c'est opportuniste, je dis tellement pas. Parce que d'ailleurs, j'en parle très peu du Covid, je crois que j'ai une remarque dans le spectacle. Et donc, j'ai tout remballé. Et j'ai tout réfléchi, mais au fond, comme je m'étais pas basé là-dessus, j'ai juste un petit peu adapté avec ce qu'on vivait, mais c'était, il était prêt. Alors, il s'est évidemment, j'ai écouté beaucoup de podcasts, notamment de Adèle Van Rett, Les chemins de la philosophie pendant mes joggings de confinement, et j'ai découvert que Heidegger pouvait s'avérer être un petit peu drôle.
Donc le Pierre Bellemare allemand.
Le Pierre Bellemare
allemand. Vous n'y allez pas de main morte.
Est-ce qu'il ne lui ressemble pas? Physiquement, je veux dire.
Ben, l'un était plus brun que l'autre, non?
Ah, mais là, ils ont les cheveux blancs sur la photo. Vous avez connu Pierre Bellemare avec les cheveux bruns.
Oui, donc
et là, vous venez de vous dénoncer.
Vous racontez dans le spectacle que la pandémie vous a quand même poussé à évoquer la mort d'une manière moins mathématique que les conférences de presse d'Olivier Véran.
Ben, c'est ce que je dis à la fin pour justifier le fait que j'ai continuer à m'entêter sur ce sujet. Parce que j'aurais pu me dire, mais on a trop parlé de la mort, personne ne va plus vouloir en entendre parler. Mais comme on l'avait entendu qu'avec des chiffres, tous les jours, bah, j'ai un peu peur parce que ça recommence. Aujourd'hui, on nous donne de nouveau le nombre de contaminations. Il y a Véran qui est venu reparler jeudi dernier. Ça m'a rappelé ce jour sans fin. Et donc, je me suis dit, mais en fait, avec des mots, est-ce que vous avez dit dans votre introduction sur le côté tabou? Parce que c'est ça le plus fou avec la mort, c'est que c'est tabou alors qu'on sait très bien qu'elle est là tout le temps et qu'elle peut nous tomber dessus tout le temps. Donc, je vois pas pourquoi c'est tabou et je pense que c'est... Toutes les civilisations n'ont pas ce rapport-là. Nous sommes une civilisation qui a beaucoup de tabous avec la mort et au fond je trouve ça plutôt chouette de ne pas en avoir et voilà.
Alors c'est pas évident de parler du spectacle d'un humoriste sans en diffuser d'extrait, mais je sais que vous tenez à réserver à votre public la primeur d'Ad Vitam.
Oui.
Alors pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore,
quoi,
on est allé piocher, mais oui,
il y en a.
On est allé piocher dans vos précédentes prestations sur scène, notamment au Montreux Comédie en Suisse.
Je suis belge aussi, et en Belgique on est très écolo, c'est le... Salut les Belges, c'est le thème du gala, l'écologie, et c'est vrai qu'en Belgique, sur notre table de nuit, on met toujours un grand verre d'eau rempli, et à côté, on met un grand verre d'eau vide, c'est parce que nous, la nuit, quand on se réveille, parfois on a soif, mais parfois, bon, on n'a pas soif, et... C'est une vieille blague belge que je recycle, mais comme le recyclage c'est un peu le thème du gala. Figurez-vous qu'il y a une étude suédoise qui est sortie il y a un mois et demi qui dit que l'acte le plus écologique c'est ne pas avoir d'enfants. Ça représente en équivalent CO2 par an 40 voyages en avion transatlantique. Les écolos là, vous avez des gosses ceux qui votent écolo? Eh bien les autres, sachez que si vous n'en avez pas, vous pouvez aller par an 15 fois en Australie chasser le kangourou en 4x4 diesel. Vous êtes plus écolo que... Je note toutes les questions que j'ai sur le règne animal, auxquelles j'ai pas la réponse et qui prouvent qu'ils sont plus malins que nous. Donc ce soir, on est bien nombreux. Si vous avez la réponse, vous levez la main et sinon, on aura prouvé. C'est un peu sur tous les animaux. Comment le morse a-t-il vécu la fin du télégraphe? C'est compliqué, celle-là. On rigole, on applaudit, mais on n'a pas la réponse. Alors, la suivante. Alors, la réponse est quelque part, mais personne n'a jamais su me la donner. Comment étaient traités les zèbres du zoo de Johannesburg pendant l'apartheid?
Alors, Alex Vizorek, ce qui est drôle, c'est que vous écoutez, vous fait rire.
Mais alors, déjà, je trouve ça super que vous avez choisi la blague du zèbre pour RFI.
Ça bah oui, ça
fait beaucoup rire. Et j'espère qu'elle fait rire tout continent confondu. En fait, je suis dans l'oubli de ce que je fais. Donc, c'est pas tant que je me trouve très drôle, c'est que j'ai oublié ce que j'ai dit. Et comme j'écris beaucoup, parce que j'ai beaucoup la radio, la télévision, chaque jour, il y a des nouvelles blagues que j'écris. Et puis, donc, mon cerveau doit faire un tri. Et donc, en m'entendant, honteusement, parce que vous les repérez, je ris.
Alors là, vous étiez en Suisse. Est-ce que l'humour belge est différent de l'humour suisse ou de l'humour français ?
Je ne sais pas, mais la personnalité d'un Belge fait que ce qu'il va dire a une teneur un peu différente. Et vous avez choisi, et je vous en remercie parmi les extraits, des choses assez absurdes. L'humour belge va bien avec l'absurde, comme un certain humour anglais. Moi, j'aime bien les Monty Python. Je trouve que c'est vraiment très drôle parce que c'est un humour qui ne blesse pas, mais qui est amusant. Donc, je ne sais pas si on est différent. Enfin, nous, on est différent, mais je ne sais pas si notre humour est différent. Et je sais qu'il est très exportable. Et moi, j'adore les humoristes français. C'est pour ça que je suis venu aussi ici. Donc, je serais malhonnête de dire qu'il y a une grande différence.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Bruxelles, je t'aime. Angèle dans De Vive Voix sur RFI. Nous sommes toujours en compagnie de l'humoriste Alex Vizorek pour parler de son nouveau spectacle, Ad Vitam. Alex, c'est vous qui avez choisi cette chanson. Est-ce que Bruxelles vous manque
hein? Oui, alors pas autant qu'Angèle, parce que moi j'ai vraiment voulu conquérir Paris et j'ai l'impression que maintenant je suis le Belge à Paris. Je n'ai pas cette angoisse de vouloir y retourner. Mais quand je l'entends comme ça chanter, citer les quartiers, parler en flamand, parce que j'aime bien notre bilinguisme, je pense que ça nous nous tire vers le haut et c'est beaucoup plus une qualité qu'un défaut. J'aime à me rappeler qu'on est un pays super, en fait. Voilà. Et donc, je trouve qu'elle l'a très bien chanté, donc ça me faisait plaisir de vous le proposer.
Alors, on revient à votre spectacle, Ad Vitam. Vous ouvrez votre seule en scène par un poème de l'inventeur du Somme, comme vous l'appelez, Baudelaire.
C'est vrai.
Ce poème, c'est « Le mort joyeux ». Oui. Vous ne pouvez pas rêver plus bel oxymore pour donner le ton du spectacle.
Exactement. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand on surprend les gens et quand on essaye de faire rire avec des thématiques assez peu utilisées dans l'humour. Donc, Baudelaire n'est pas non plus utilisé par beaucoup d'humoristes, se prêtait évidemment à la thématique de la mort, détestait les Belges parce qu'il a vécu chez nous et il a passé des mauvais moments parce que c'était la période où il n'allait pas bien, et puis il est tombé malade, et puis il n'était pas reconnu, et Victor Hugo, qui habitait aussi à Bruxelles, était idolâtré par les Français, et lui, personne n'en voulait à l'époque, donc il était fâché. Et ce mort joyeux est assez beau pour ouvrir de manière solennelle le spectacle, et derrière j'explique que si j'ai choisi ça, c'est parce que tout ce qui arrive après Baudelaire normalement est plus drôle, et donc par contraste ça fonctionne.
Alors tout au long de ce spectacle, vous naviguez diapo à l'appui entre citations philosophiques, on l'a compris, blagues potaches,
oui il y en a,
et allusions coquines,
oui il y en a aussi.
Alors on passe d'Épicure à Picasso, de Yoko Ono à Marina Abramovic,
oui,
de Jean-Claude Van Damme,
oui,
à Sophie Kyle,
c'est vrai.
Le spectre donne un peu le vertige. Est-ce que c'est ça le secret d'un seul en scène réussi, c'est-à-dire ces allers-retours entre références culturelles peut-être un peu pointues, et puis des aphorismes, des jeux de mots, des blagues, des petites piques malicieuses aussi?
Mais je crois qu'on est, on est tous un peu tout ça. Et il faut être honnête, dans ce qu'on rend de soi-même, moi, franchement, je peux passer une heure à écouter Un chemin de la philosophie sur Schopenhauer et trouver que c'est passionnant. Mais je peux aussi passer une heure et demie à écouter RMC, la soirée foot, parce que j'aime ça. Et je peux passer une heure et demie à boire des bières et à faire des réflexions coquines. Donc je pense qu'on est tous un peu ça. Il n'y a personne qui est exclusivement Schopenhauer ou exclusivement la bière à la main à raconter des cochonneries. Donc j'aime bien l'idée que ça se mélange et je pense que les gens s'y reconnaissent un petit peu là-dedans. Est-ce que c'est une recette? C'est ma recette, mais je ne sais pas si c'est une recette.
Alors dans Ad Vitam, vous parlez beaucoup des animaux,
oui,
et de leur système de reproduction. Et moi, j'ai bien aimé la notion du consentement chez le porc-épic.
Et oui, parce que moi, j'ai découvert ça aussi dans le travail. J'explique ce spectacle sur la mort, je commence par la vie. Et en fait, le mâle porc-épic urine sur la femelle qu'il convoite. Et elle a deux solutions, c'est-à-dire que soit elle est d'accord, alors elle se retourne et elle soulève les pics, parce que tout le problème, ce sont les pics. Soit elle n'est pas d'accord et elle se secoue. Et le mâle, il comprend que c'est non. Ça veut dire non, en fait. Et donc, il va pisser sur une autre.
Voilà. Alors, vous... Mais
donc, je trouve ça bien dans cette période où, effectivement, régulièrement, des noms de politiciens ou hommes de télé français ressurgissent pour des consentements non compris, que l'animal donne l'exemple.
Alors, vous nous faites découvrir aussi la redoutable Baudroie des abysses.
Eh oui, c'est un animal du fin fond de l'océan. Ou c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'araignée et la veuve noire.
Ouais.
C'est-à-dire que l'homme, en s'accouplant, décède. Et c'est la femme qui va choisir le moment et qui va mettre à bas. Donc il y a vraiment un truc où c'est instinctivement féministe. Et là aussi, je me dis que parfois, la nature nous donne des petits messages quand on ne l'est pas assez. On entend qu'il y a des animaux qui le sont tellement que dès que l'homme veut s'accoupler, il en meurt. Donc, il faut bien réfléchir.
Alors, évidemment, vous ne pouviez pas faire un spectacle sur la mort sans évoquer la petite mort.
Non, alors ça, c'était mon excuse pour parler de cul pendant 10 minutes. Donc, avouez que c'est joli, parce que la petite mort, c'est littéraire. Ça parle, bon, pour les gens qui ne connaîtraient pas l'expression, c'est l'orgasme dans la belle littérature. Quand on dit « j'ai connu une petite mort », c'était qu'on a connu un bel orgasme. Et donc, je me permets de parler de mes fantasmes très personnel, qui permettent après, je pense, à chacun de projeter les leurs.
Alors, c'est Stéphanie Bataille, oui, qui assure la mise en scène de vos spectacles. Alex Vizorek, d'abord, est une œuvre d'art, oui, qui a tourné pendant 10 ans, et maintenant d'Ad Vitam, auquel on souhaite le même succès. Stéphanie a été votre professeure au cours Florent, où elle dirigeait la première classe spécialisée en one-man show. Cécile Lavolo lui a demandé pourquoi elle vous avait immédiatement repéré parmi tous ses élèves.
Quand je suis rentrée dans la salle où il y avait une trentaine de filles et de garçons, il m'a apparu très singulier. Déjà par sa tenue vestimentaire, par sa façon d'appréhender la vie quand il a commencé à ouvrir un peu la bouche et à me présenter les textes. Et je me suis dit, vous savez, j'avais envie de l'apprivoiser. Et je pense que lui aussi. Et nous nous sommes apprivoisés l'un et l'autre. Et ces textes, au départ, étaient un petit peu, je ne dis pas banal, ils sortaient évidemment de l'ordinaire, mais je trouvais qu'on pouvait aller plus loin. Et nous avons évoqué, moi-même, ayant fait des études d'histoire de l'art, l'art, en disant on n'en a jamais parlé sur un plateau en tant que one-man show. Et donc, on a écrit ensemble ce spectacle pendant 6 mois à la table. Et c'était une relation absolument merveilleuse et qui dure. Il y a une vraie pérennité. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. Et l'histoire est heureuse et joyeuse.
Comment définissez-vous son humour ?
Alex Vizorek, on pourrait le définir comme quelqu'un d'extrêmement absurde, mais qui a envie de plaire à tout le monde. Alors on sait que c'est très difficile de vouloir plaire à tout le monde, on y croit. Ça existe quasiment pas. Mais c'est vrai qu'il arrive à balayer, à faire plaisir, à interpeller chacun d'entre nous, ceux qui aiment l'humour stand-up, ceux qui aiment l'humour un peu intellectuel, mais ça n'a rien de péjoratif, et il attire aussi les poètes. C'est-à-dire que vraiment, il a une palette de cœur, parce que je pense qu'aussi ça vient de là, qui arrive à arroser chacun d'entre nous dans n'importe quel domaine ou partie de nous-mêmes.
Et comment vous l'avez aidé à s'épanouir ?
Avec beaucoup de rigueur. Je suis une scatanovice du travail et c'est ce que j'ai essayé de lui dire en disant c'est pas parce que tu as une bonne vanne qu'elle va être pérenne. Pour qu'elle soit pérenne, il faut la travailler, la retravailler comme une œuvre d'art. Il faut la travailler jusqu'au bout, aller au plus profond de soi-même pour en donner le meilleur. C'est ce que j'essaye et je sais que ça fonctionne puisqu'au départ il était un peu réticent, disant oh, ça va, on peut le faire. Et il a pris ma main et j'ai pris la sienne et on travaille énormément. Là, en ce moment, pour son spectacle qui joue au Théâtre de l'Œuvre, Ad Vitam, j'y vais une fois par semaine. Je prends des notes, mais pas comme une maîtresse d'école, où j'essaye d'affiner pour qu'on soit au plus juste, pour que lui se sente le mieux possible et pour que ce qu'il va offrir aux spectateurs soit le meilleur. C'est génial de faire le meilleur, ne pas se contenter de l'à peu près. Et je pense que c'est extrêmement payant, dans le sens noble du terme, hein, rien à voir avec l'argent. C'est payant au niveau de la façon dont le texte est reçu, la façon dont les idées parviennent au spectateur et le fait cogiter. Le spectateur, quand il sort d'un spectacle d'Alex Vizorek, il se questionne. Alors je sais bien que c'est de la question d'où naît tout le mal, hein. C'est pas de moi, c'est de Nietzsche, mais il arrive à questionner les gens. C'est super de voir un spectacle, puis quelques jours après, repenser à ce spectacle et vivre peut-être autrement ou éclairer mieux sa vie.
Alex Vizorek, vous aussi, vous pensez aux conversations que les spectateurs peuvent tenir une fois sortis du théâtre ou aux questions qu'ils peuvent ensuite
J'aurais pas pu citer Nietzsche pour m'excuser de faire poser des questions aux gens. J'aime beaucoup qu'on se souvienne un tout petit peu de ce qu'on a vu. Parce que c'est parfois ce que je peux reprocher ou je me reproche à moi en tant que spectateur. Je me dis, j'ai passé une bonne soirée avec cet humoriste et qu'est-ce qu'il a raconté ? Ah, je sais plus très bien. Et dans le premier spectacle, j'avais tout un sketch sur Mort à Venise. Le film de Visconti, où j'expliquais que c'est quand même triste de mettre la fin du film dans le titre, parce que du coup, ben, on attend quand même pendant 2 heures et ça rate pas. Et il repasse tous les 2-3 ans sur Arte, en l'occurrence d'ailleurs, souvent. Et je reçois une flopée de messages de gens qui me disent « Oh, à cause de vous, on a regardé Mort à Venise ». Donc je me dis, c'est qu'ils s'en souviennent, même 2-3 ans après. Donc c'est j'aime bien ça, oui, j'aime bien ça.
Et pourquoi est-ce que vous détestez qu'on dise que vous faites de l'humour intello ?
Ben parce que c'est un oxymore, à mon avis, humour intello. Je pense que ce qui est intello n'a pas de recul sur lui-même. C'est une analyse et c'est nécessaire dans le monde. Mais donc, je pense qu'il ne faut pas avoir non plus de code. Moi, je viens, je vais vous parler d'Heidegger, mais si vous ne savez pas qui c'est, ce n'est pas très grave. Je vais vous en parler, vous allez ressortir, vous saurez qui c'est. Donc, moi, c'est ça qui m'est nécessaire. Et en fait, humour, ça se suffit à soi-même. Vous venez, vous allez rire, c'est ma promesse. Je vais tout faire pour que ça fonctionne. Mais ne vous sentez pas exclu de départ.
Quand vous racontez qu'aux enterrements, cela vous détend de dire des blagues, c'est du vécu ?
Ah bien sûr. Ah non, mais moi, le nombre de... Si les cadavres pouvaient parler, je crois qu'ils se leveraient pour me gifler, mais c'est ma réaction à l'angoisse que ça représente. Il y a des gens qui font dans l'arme, et moi, je comprends la fatalité du monde, je sais que c'est fait. Mais je veux pas l'admettre, et donc quand on veut pas admettre les choses, on en rit. Des proches disaient, si je ris autant de la Deuxième Guerre, de la Shoah, tout ça, c'est parce que je ne la comprends pas. Je ne comprends pas que des hommes aient pu faire ça. Donc, j'ai besoin de rire pour évacuer ça. Et je pense avoir ça vis-à-vis de la mort, ouais.
Mais alors justement, est-ce que écrire ce spectacle et le jouer,
est-ce que je vais mieux?
Bah oui, est-ce que vous allez mieux?
Ben, quelque part, c'est pour ça que le Covid m'a contrarié, parce que je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose pendant cette année et demie, d'ailleurs on ne savait pas qu'elle durerait un an et demi, hein, peut-être elle allait en durer 10 ou peut-être 2 mois, ou 2 semaines, comme avait promis Macron à la première intervention, bon, il s'était un peu trompé. Je me suis dit, j'aimerais quand même bien, avant de mourir, faire ce spectacle sur la mort, parce que sinon il y a quelque chose qui se perd. Et donc là, il s'avère que à un moment j'explique comment j'aimerais être enterré, et ben maintenant c'est fait, beaucoup de gens auront entendu comment j'aimerais, et donc j'espère que ce sera dans ces conditions là et que vous viendrez tous rire à mon enterrement.
Mais on gardera le secret sur la fin quand même, un peu étonnante du
j'espère
spectacle.
Vous avoir surpris.
Alors comme chaque lundi, Alex Vizorek, on a rendez-vous maintenant avec la chronique Ailleurs qui nous emmène aujourd'hui à Madagascar. Florence Dimani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la médiathèque à l'Institut français de Madagascar. Vous avez lancé la semaine dernière le Slam national. Quels sont les points forts de cette 12e édition ?
Eh bien, de nombreux points forts pour cette édition-ci. À commencer par un festival qui s'est réalisé pour partie la semaine dernière sur la capitale Antananarivo et qui, depuis aujourd'hui, est délocalisé à Tamatave, une région côtière à l'est de Madagascar.
Alors au total, combien de villes et combien de pays participent à ce festival ?
Nous avons 10 villes malgaches qui sont représentées pour cette finale du slam national malgache, qui sera un peu la clôture de ce gros événement slam qui se déroule depuis une dizaine de jours. Donc on a 10 villes nationales qui ont sélectionné leurs champions régionaux, qui s'affronteront samedi prochain à l'Alliance française de Tamatave. Et concernant les pays, on a 3 pays, la France, l'Allemagne et le Gabon, qui participent en promouvant, si je puis dire, des artistes slameurs de leur propre pays dans le cadre d'ateliers ou de spectacles communs avec des artistes locaux.
Est-ce que la championne en titre du slam national, Louise, va remettre son titre en jeu cette année ?
Oui, tout à fait. Louise, qui est notre championne en titre 2020, va remettre en jeu sa place de championne nationale cette année, qui sera donc disputée à la finale la semaine prochaine.
Quels sont les thèmes préférés des slameurs poètes malgaches ?
C'est multiple, c'est vraiment très très varié. Ça va de l'amour aux embouteillages, en passant par la peste, le choléra, la révolution, la liberté. Disons qu'il n'y a pas forcément de thème de prédilection, mais ce qu'on voit souvent, c'est que c'est un moyen d'expression, comme ailleurs dans le reste du monde, dans l'utilisation du slam poésie. Et c'est un bon moyen pour les malgaches, et souvent les jeunes malgaches, de s'exprimer sur leur quotidien et leurs difficultés du quotidien.
Et est-ce que les slameurs sont plus nombreux que les slameuses, ou est-ce qu'on va vers la parité ?
Alors, on a encore un petit écart avec plus d'hommes que de femmes, mais de plus en plus, on a des femmes. Et on était ravis pour cela aussi d'accueillir Louise comme la première championne nationale l'an dernier.
Merci beaucoup, Florence Dimani. Bonne journée et bon festival.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup Alex Vizorek d'avoir été notre invité. Ad Vitam, c'est un spectacle réjouissant à voir du mercredi au samedi au Théâtre de l'Œuvre à Paris, avant une tournée à partir du 8 janvier en France, en Belgique et en Suisse.
Et j'espère dans toute la francophonie si on m'accueille.
Et bien pourquoi pas. Vous terminez votre spectacle par une citation du médecin et philosophe Avicenne. Un musulman qui aimait les femmes et l'alcool et qui, d'après vous, a lu le Coran comme on a lu Proust.
C'est une des rares erreurs, parce qu'il n'est pas écrit dans le Coran qu'on ne doit pas boire d'alcool.
Ah.
Mais alors j'ai appris ça. Mais effectivement, j'explique que oui, il aimait beaucoup l'alcool, et c'est une des grandes intelligences musulmanes, Avicenne. Et il a cette phrase qui me touche énormément. Il dit « Une vie ne se mesure pas à sa longueur, mais à sa largeur. » Et tous les jours, je pense qu'il faudrait se réveiller en lisant ça, parce que ça veut dire vraiment qu'il faut la rendre dense, intense. Et aujourd'hui, je suis venu à RFI, et elle est un peu plus large qu'avant.
Merci Alex Vizorek, à bientôt.
Merci.